Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Un vaccin pour la fin de l'année, la question est désormais crédible et la réponse encore au conditionnel. L'Union européenne a déjà déposé des précommandes auprès de 5 laboratoires et lors d'un sommet consacré à la fin de la semaine dernière à la pandémie, la présidente de la Commission européenne a parlé d'un possible feu vert dès la mi-décembre. Parmi tous les candidats, le duo américano-allemand Pfizer-BioNTech est sur les starting blocks. En Allemagne, le couple de chercheurs à l'origine de la société BioNTech est devenu une célébrité, deux scientifiques, enfants d'immigrés turcs, devenus sauveurs de l'humanité et milliardaires. Un récit d'un conte de fées qui n'a pas fait tourner la tête des principaux intéressés. À Berlin, Julien Méchaussi.
D'Alexandrette, ville moyenne du sud de la Turquie, à Mayence, ville moyenne des bords du Rhin, ou encore de fils de travailleurs étrangers à sauveurs du monde, comme l'ont titré plusieurs quotidiens allemands. La trajectoire d'Ugur Şahin et de sa femme, Özlem Türeci, fille d'un chirurgien né à Istanbul qui a émigré en Allemagne, n'en finit plus de fasciner le pays. Plus que quelques semaines et leur entreprise au faux air de start-up, BioNTech, sera en mesure de livrer des millions de doses de leur vaccin contre le coronavirus. Avec seulement 1500 salariés, BioNTech a vu sa valeur exploser, estimée aujourd'hui à plus de 20 milliards d'euros, soit autant que le géant industriel allemand Bayersdorf, connu pour sa marque de cosmétiques Nivea. Après avoir consacré de nombreuses années à des recherches sur le cancer, ce vaccin au nom de code Vitesse de la Lumière constitue le premier véritable succès de ce couple de quinquagénaires. Depuis 2001 et la création de leur première entreprise, Özlem Türeci et Ugur Şahin ont fait le pari d'une technologie appelée ARN messager, laquelle permet de guider les cellules dans la production de défense contre l'apparition d'une maladie. Si cette technologie n'a pas encore trouvé d'application dans la lutte contre le cancer, c'est bien elle qui est à la base du vaccin anti-Covid. Devenu le visage d'une immigration modèle, Özlem Türeci et Ugur Şahin refusent cependant de jouer le jeu médiatique avec de très rares interviews accordées, une absence totale sur les réseaux sociaux. Et le succès soudain de leurs recherches ne risque pas de leur faire perdre la tête. Ils ont déjà annoncé que chaque centime gagné grâce à leur vaccin sera immédiatement investi dans le développement d'autres biotechnologies, avec comme priorité la lutte contre le cancer. I'm the real easy money sniper, I'm a virus. Not the type of virus on your laptop, harm rich people. I murder the have-nots, they had to call FEMA. Not the FEMA in your leg, Federal Emergency Management Agency instead. They don't got enough ventilators, respirators to last. I already know how you look, why you wearing the mask. Et en attendant ce fameux vaccin, les scientifiques sont nombreux à chercher des traitements contre les formes graves du Covid-19, mais aussi contre ses effets secondaires. Longtemps après avoir guéri, certains patients ressentent encore des symptômes comme une grosse fatigue, des essoufflements ou une perte d'odorat et de goût. Au CHU de Liège, en Belgique, il est possible de consulter un médecin du sport et de commencer une rééducation olfactive. C'est le reportage de Lex Milota.
Donc déjà, à l'odeur ?
Il n'y a rien, rien du tout.
Dégustation chez Grégory, amateur de bon vin. Depuis qu'il a eu le Covid-19, il a noté une baisse de ses capacités olfactives et gustatives.
Alors c'est un bon Bordeaux, et quand je bois, je goûte l'acidité, les tanins, et j'ai pas le goût fruité.
La dégustation est vraiment très différente par rapport à d'habitude.
J'ai pas spécialement envie de boire le vin. Très bizarre, très étrange, ça me rend triste. Une espèce d'absence de goût. D'habitude, une bonne bouteille de vin, c'est un plaisir. Et là, c'est tout de suite moins intéressant.
L'anosmie, la perte d'odorat, et l'agueusie, la perte de goût, sont des symptômes qui peuvent persister après la fin de la maladie. Pour aider des personnes souvent déroutées par la perte de ces sens primordiaux dans la vie quotidienne, le centre hospitalier de Liège propose des rendez-vous dédiés à ces problèmes. Anne-Lise Poirier, médecin ORL, s'occupe de ses patients.
C'est extrêmement important. En fait, tant que vous ne l'avez pas perdu, vous vous en rendez pas compte, mais vous vous rendez pas compte que vous l'utilisez plus ou moins à chaque minute de votre vie. Donc en fait, c'est un sens avec lequel on vit tout le temps. C'est lié, bien sûr, ça c'est évident, à notre sécurité, parce que c'est quelque chose qui va nous avertir d'un danger, ça va nous avertir si la nourriture est périmée, ça va nous avertir s'il y a du gaz quelque part ou s'il y a une odeur de brûlé. Ça intervient sur plein d'autres choses, notamment les aliments que nous mangeons. En fait, une grande partie de ce qu'on ressent, de la saveur des aliments, vient en fait de l'odorat. Et puis l'odorat, c'est aussi lié à des tas d'émotions, c'est lié à la mémoire. Quand Marcel Proust parlait de la Madeleine de Proust, il avait tapé tout à fait juste. L'odorat joue énormément dans notre perception du monde et nos émotions et notre mémoire.
Le CHU publie un guide de rééducation olfactive, car il est possible de s'exercer à retrouver ce sens. Les neurones olfactifs peuvent en effet se régénérer. Pour cela, prenez un peu de temps, chaque jour, au calme. C'est ce que nous explique Anne-Lise Poirier.
Si on oblige les gens à sentir ne serait-ce que 4 odeurs simples par jour, eh bien on observe des récupérations qui sont beaucoup plus importantes que s'il n'y a plus aucune stimulation. Alors les odeurs qui ont fait leur preuve, je dirais que c'est le citron, la citronnelle, la rose, le clou de girofle, l'eucalyptus. On peut aussi choisir des odeurs simples qu'on a dans sa cuisine. C'est quelque part le plus basique et puis c'est ce dont on va se servir au quotidien. Ça peut être du chocolat, du café, de l'orange, de la menthe. On peut aussi se servir de ce type d'odeur.
Même si vous ne sentez rien, il faut persévérer car il s'agit aussi d'entraîner son cerveau à se rappeler des odeurs.
Après 15 minutes, j'étais vraiment à bout de souffle de là à devoir m'arrêter alors que d'habitude je cours 45 minutes voire une heure sans trop de difficultés.
Enguerrand, 31 ans, est un bon coureur, mais depuis qu'il a eu le coronavirus, il se sent vite essoufflé.
Dès que cette quarantaine était finie et que j'avais plus de symptômes et que je commençais à me ressentir bien, je me suis dit allez, je vais aller prendre l'air, un peu courir, et au début ça allait, et puis très vite je me suis dit oula, en fait ça va pas. Et ça, j'ai vu que c'était pas normal, quoi.
Kevin Lagrange est médecin du sport. Il a reçu plusieurs patients s'inquiétant de ne pas retrouver leur forme physique.
C'est vraiment cet essoufflement, cette notion de perte de capacité des poumons à oxygéner le sang qui font en sorte qu'on se retrouve essoufflé, même en allant, par exemple, du salon à la cuisine. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Et pourtant, chez certains patients, à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué à cause de cette atteinte, justement.
Voici les conseils du médecin du sport pour retrouver une bonne pratique.
Au début, donc vraiment, l'idéal, c'est donc de faire plusieurs sorties sur la semaine, donc une à deux sorties. En maximum, je parle par exemple pour ceux qui font de la course à pied ou même du vélo. Et ne pas vouloir vraiment accélérer, essayer de tout récupérer en un coup. Donc c'est vraiment une sortie plus pour se tester en fonction de leur état de santé. S'ils se sentent bien, qu'il n'y a pas de difficultés respiratoires, qu'ils ne sont pas plus vite essoufflés qu'auparavant, là, à ce moment-là, effectivement, on peut se dire qu'ils peuvent peut-être aller un petit peu plus loin, mais toujours sans forcer, toujours avec cette notion de progressivité. C'est vraiment aussi un mot qui est important, c'est la notion de progressivité.
Patience et entraînement pour retrouver le goût, l'odorat et le souffle. Tester, tracer, isoler, c'est désormais le triptyque mis en avant par les autorités sanitaires pour terrasser le virus. Au Royaume-Uni, la ville de Liverpool, une des plus touchées du pays, a voulu montrer l'exemple en lançant le premier dépistage de masse. 55 000 personnes se sont déjà volontairement fait tester dans un des 20 centres dédiés, avec ou sans symptômes, pour justement épingler les contaminés qui s'ignorent. C'est le reportage à Liverpool de Marie Billon.
Paul gare sa voiture devant les cours de tennis couverts de Liverpool. Ce n'est pourtant pas la balle jaune qu'il va titiller, mais le fond de sa gorge et de son nez.
Je m'appelle Paul Brandt et je suis élu local chargé de la santé et des soins pour l'agglomération. Alors là, nous sommes dans l'un des centres de tests réservés aux personnes qui n'ont pas de symptômes et donc qui n'ont aucune raison de penser qu'elles sont contaminées. Je suis venu la semaine dernière et c'est la deuxième fois que je me fais tester.
Liverpool a le premier programme de dépistage de masse en Europe, un honneur douteux dû à son taux de contamination élevé dans la communauté.
Un certain nombre de gens peuvent être contaminés, mais ils n'ont aucun symptôme et donc ils ne sont pas du tout conscients qu'ils sont porteurs du virus. Et ces individus représentent un grand danger pour la société, car ils sont actifs comme toute personne en bonne santé, ils rencontrent d'autres gens au travail, ils sociabilisent et ils propagent la maladie sans le savoir. Alors en donnant l'opportunité à ces gens de se faire tester, on leur permet de réaliser qu'ils sont contaminés et donc de s'auto-isoler. Ça casse la chaîne de transmission et ça réduit ainsi le taux de contamination.
Paul a réservé son test pour 14 heures, mais tout habitant de Liverpool peut aussi arriver sans rendez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent aussi demander un test par la poste. Ce sont des militaires qui assurent la logistique dans la vingtaine de centres de dépistage de masse de Liverpool. À l'entrée, un soldat en uniforme demande à Paul de confirmer qu'il n'a pas de symptômes, puis lui tend un papier sur lequel se trouve un code QR pour qu'il renseigne ses coordonnées. Paul entre ensuite dans la grande salle de tennis couvert. Sur les cours, une vingtaine de boxes sont installées, un peu comme une série d'isoloirs blancs en dur. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la file d'attente, mais le marquage au sol est bien clair, assurant une distance de 2 mètres entre chacun. Un autre militaire tend un écouvillon emballé à Paul, puis l'emmène dans l'un des isoloirs en lui réexpliquant la procédure.
Alors là, on est dans une petite cabine individuelle. Il y a un miroir d'un côté et une fenêtre percée de l'autre. Et c'est de là que je vais tendre mon écouvillon une fois que j'aurai terminé. Bon, je commence.
Paul, désormais seul, s'applique, passant l'écouvillon au fond de sa gorge, puis de son nez, du mieux qu'il peut, sans supervision. Puis attend qu'un soldat vienne collecter l'écouvillon.
Lovely. All right, thank you very much. Cheers. It was very quick.
Ah, c'était très rapide. Le plus long, ça a été d'attendre qu'il collecte mon coton-tige. Ça a pris quoi ? Moins de 10 minutes. Et dans moins d'une demi-heure, j'aurai mon résultat par SMS.
Pendant que Paul attend, nous allons dans un autre centre de dépistage massif, à 5 minutes des cours de tennis. Cette fois, c'est un hôtel qui a été transformé. Le sergent Andrew Faulkner des Irish Guards est aux commandes ici. C'est dans la salle de réception que les cabines sont installées. Le plafond est encore drapé de blanc, comme si un mariage avait eu lieu juste avant que la mairie n'y installe sa logistique. Le sergent met son kit de protection, un tablier en plastique, des gants, un masque et une visière pour nous montrer ce qui se passe une fois qu'une personne a tendu son écouvillon au militaire.
Ici, vous allez voir ce qu'il se passe en coulisses. C'est là que se produit la magie dans un sens. Quand vous avez donné votre coton-tige à travers la fenêtre, le soldat prend un de ces petits tubes en plastique, il touille le bout de votre écouvillon dans 6 gouttes de l'agent actif, puis il va sur l'une des tables là et dépose le liquide sur une des palettes. Ensuite, ça fonctionne comme un test de grossesse. Si au bout de 30 minutes, une deuxième ligne n'apparaît pas, c'est que le résultat est négatif.
Un soldat devant 12 horloges électroniques, comme autant d'isoloirs, surveille chacun des tests. Puis, une fois le temps écoulé, écrit le résultat sur un papier. Le sergent Faulkner se charge ensuite de transmettre les informations électroniquement. C'est le NHS, le service de santé nationale, qui prévient alors chaque personne par mail, SMS ou par un coup de fil du résultat. Paul reçoit son résultat à 14h55 et en fait son test juste après 14h. 55 000 personnes sont allées volontairement se faire tester la première semaine. Les autorités espèrent que les habitants de Liverpool reviendront régulièrement, tous les 7 jours. C'est bien ce que comptent faire Steven et Johan.
C'est la deuxième fois que je me fais tester. Si les gens ne le font pas, on ne pourra pas contrôler l'épidémie. S'ils continuent à se promener, pensant qu'ils ne sont pas porteurs alors qu'ils le sont, ils vont continuer à propager la maladie. Moi, je m'occupe aussi de ma mère âgée qui s'isole depuis le début de la pandémie. Donc, je veux être sûr de ne pas lui transmettre.
C'était très bien, c'était bien géré, très organisé. Les militaires sont très sympas et amicaux. Le test, en soi, ça fait tousser, mais franchement, ça va.
De nouveaux centres de tests ont été ouverts encore le week-end dernier dans l'agglomération et plusieurs autres villes et régions devraient bientôt suivre l'exemple de Liverpool. C'est l'État qui règle la note. Selon les estimations des médias britanniques, elle pourrait aller de 50 à 100 milliards d'euros.
Yeah.
music.
Et comme tous les lundis, désormais, on vous emmène en musique visiter un petit coin d'Europe avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
On part avec vous en Italie pour une balade mélancolique.
Et je vous emmène aujourd'hui en Toscane, à Florence plus précisément, où le musicien anglais Darren Heyman a écrit et enregistré seul un album entier en 2014. Imaginez le ciel bleu et froid de ces journées qui s'écoulent lentement entre Noël et le jour de l'an, quand la ville est calme et presque vidée de ses touristes. Imaginez l'Arno et le Ponte Vecchio et puis ces volets d'escalier qu'on grimpe à flanc de colline, ces quelques pièces données à une mendiante pour qu'elle vous indique ce cimetière si tristement dense en tombe d'enfant. From the square to the hill, de la place à la colline, une promenade mélancolique sur les traces d'amis absents.
Safe houses and soft laybys to rest. The sky is cold and clear, and there's nothing going on here. Just the nothing between Christmas and New Year. Let's take the
Square to the Hill, de la place à la colline, du musicien britannique Darren Heyman. C'est ainsi que se termine Accent d'Europe. Aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.
From the square to the hill, from the square. From the square to the hill, from the square.